CFM.
Acquis de Tours, spéciale législative, la suite. Après avoir reçu le candidat Front National, c'est au tour du Parti Radical de Gauche. Kader, tu reçois Sylvia Pinel.
Oui, Sylvia Pinel dans nos studios. Bonsoir.
Bonsoir.
Sylvia Pinel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça n'a pas été facile avec votre emploi du temps qu'on nous a dit très chargé. Romain Lepeyce a fustigé votre absence à un débat. On lui a dit que, bien sûr, c'était une question d'agenda. Il a pointé le fait que vous avez systématiquement refusé le débat. Est-ce que...
C'est très désagréable la manière de se comporter de ce candidat. Moi, j'ai très vite, lorsque j'ai annoncé ma candidature, décidé de visiter les 132 communes de notre circonscription, de tenir 11 réunions publiques, de faire de nombreuses visites de terrain. Et lorsque certaines sollicitations, comme la CAPEB ou l'Ordre des médecins nous ont sollicité, j'étais de l'autre côté du département avec des réunions publiques programmées et pour visiter 132 communes, il faut bien les trois semaines de campagne officielle pour se faire. Donc, plutôt que de chercher la polémique permanente, Monsieur Lepeyce devrait plutôt chercher à faire sa campagne sans s'occuper de ses adversaires.
Allez, ça c'est dit. Retour, si vous le permettez, sur les résultats du premier tour au niveau national, avant de nous consacrer sur la deuxième circo. Des chiffres qui font peur, en tout cas, du côté du Parti Socialiste, 7,44% de suffrages exprimés, La République En Marche 28,21%, le Parti Radical de Gauche très 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 faible aussi. Est-ce que c'est un big bang politique auquel nous assistons? Est-ce que finalement Emmanuel Macron, avec son élection, n'a pas dynamité le paysage politique français?
Ce qui est sûr, c'est que nous assistons à une recomposition politique majeure, puisque l'élection d'Emmanuel Macron a bouleversé les partis politiques traditionnel. Et en tant que chef de parti, je considère qu'il est désormais important que nous nous posions des questions, que nous aussi nous puissions nous transformer, avancer, puisque je crois qu'il est toujours évidemment indispensable que des partis comme le mien, le PRG, puissent.
Justement, est-ce qu'il y a une place d'ailleurs pour le Parti Radical de Gauche encore en France, pour le Parti Socialiste aussi? Est-ce qu'il y a une place pour ces partis-là?
Je crois qu'il y a une place pour la démocratie, pour les partis politiques, parce que nous avons toujours été organisés de cette manière-là. Mais ces partis doivent se transformer, se moderniser, se renouveler.
Autour d'En Marche.
Mais ils doivent jouer un rôle. Et moi, j'ai toujours considéré, à partir de l'élection d'Emmanuel Macron et dès le premier soir de la présidentielle, considéré que nos points d'accord, nos points de convergence étaient beaucoup plus nombreux que les points de différence que nous pouvions avoir exprimé l'un et l'autre, moi pendant les primaires, lui pendant sa campagne présidentielle. Et donc, j'ai considéré que le Parti Radical de Gauche devait s'inscrire dans cette future majorité présidentielle. Une majorité présidentielle, c'est toujours une majorité pluraliste, avec des sensibilités différentes.
C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles? Parce que,
non, c'est pas une question.
On s'interroge. Par exemple, sur la première circonscription de Tarn-et-Garonne, il y a un candidat, La République En Marche, face à une candidate socialiste. C'est difficile à comprendre pour un citoyen.
Il est normal que les partis politiques traditionnels continuent à présenter leurs candidats. Moi, j'ai un certain nombre de candidats PRG au second tour, dans les Hautes-Pyrénées, par exemple, ou ailleurs. Et nos convictions, il est bon de les faire valoir, de les porter. Il est important aussi ensuite de pouvoir les exprimer à l'Assemblée nationale pour faire évoluer, pour améliorer, corriger parfois certaines propositions ou certains textes qui nous seront présentés. Mais on peut aussi, tout en étant différent, en appartenant pas au même parti, se retrouver dans une majorité. Lorsque ce quinquennat... Non mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Dans le quinquennat qui vient de s'achever, la majorité était détenue par le Parti Socialiste. Moi, j'ai toujours été PRG. Et pour autant, ça ne m'a pas empêché de travailler dans l'intérêt du pays avec un autre parti.
Vous étiez membre du gouvernement.
Oui, avec un autre parti que le mien. Et cette majorité, elle a été large, elle a été composée de différentes sensibilités politiques. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a effectivement bouleversé les clivages en rassemblant des progressistes de gauche, mais aussi de droite. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait le succès de son élection, puisque les Françaises et les Français se sont retrouvés autour des idées d'Emmanuel Macron pour voter ce projet qu'il a présenté et pour dire finalement quoi. On en a assez de ces débats politiciens, de querelles stériles, qui n'apportent rien, qui ne font rien avancer. On préférerait des élus qui soient en capacité, même s'ils ne partagent pas le même engagement à la base, qui puissent faire avancer notre pays. C'est ça qui finalement doit nous interroger, beaucoup plus que de savoir si les bisbilles passées sont encore aujourd'hui d'actualité.
Une question stratégique, en tout cas, si vous pouvez répondre. Après l'après législative, quel sera-t-il pour le Parti radical de gauche? Est-ce qu'il y aura un accord de gouvernement comme cela s'est fait lors de la dernière mandature avec le gouvernement la présidence de François Hollande? Est-ce qu'il y aura un accord de gouvernement?
Écoutez, nous avons dès le premier tour de la présidentielle dit en tant que PRG que nous nous inscrivions dans une majorité présidentielle. Je constate d'ailleurs que Emmanuel Macron a entendu ce message, puisque dans cette circonscription, par exemple, il a décidé de ne pas présenter de candidat parce que il sait que je m'inscris dans cette logique de majorité présidentielle et n'a pas souhaité présenter un candidat de sa propre formation politique. C'est bien le signe que Emmanuel Macron cherche le rassemblement et je constate aussi qu'il y a un certain nombre de radicaux. Quand il y a déjà des ministres au gouvernement, je rappelle que Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture, qui est d'ailleurs venu la semaine dernière à Moissac, ou Annick Girardin, députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ministre des Outre-mer, est aussi dans ce gouvernement, ça prouve bien que les radicaux sont partie prenante de cette majorité présidentielle.
Alors, on passe à une dernière question au niveau national. L'abstention, il faut bien en parler, qui est finalement le premier parti de France. Scrutin après scrutin, on s'aperçoit que hors présidentielle, bien sûr, elle est toujours à des niveaux records. Que faudrait-il faire pour qu'enfin les Français votent en masse pour les législatives, qui est un scrutin très, très important.
Très important. Effectivement, mais cette question, elle revient à chaque campagne,
à chaque
élection, et en particulier à chaque campagne législative. Nous avons évidemment connu une forte participation à la présidentielle, très forte. Et effectivement, certains de nos concitoyens oublient qu'il est important, après avoir voté pour le président de la République, de voter aussi pour élire cette nouvelle Assemblée nationale qui aura un poids extrêmement important et crucial pour leur venir. Donc je crois que c'est aussi ce travail d'information, de communication, de pédagogie qu'il faut faire, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai souhaité aller sur le terrain pendant toute la campagne de premier tour pour expliquer justement les enjeux de cette campagne législative et la nécessité d'avoir des députés qui connaissent véritablement les territoires, mais
Votre score vous a surpris?
Écoutez, lorsqu'on passe une campagne sur le terrain, à expliquer, à tenir des visites dans toutes les communes, les 132, que l'on tient 11 réunions publiques et que l'on rencontre des milliers d'électeurs, on a aussi le temps d'expliquer, de démontrer les enjeux de ce scrutin. Et je crois aussi que c'est finalement à la fois la confiance envers le président de la République qui me soutient, et en même temps la reconnaissance de l'action que j'ai pu mener pendant les 5 dernières années.
Sylvia Pinès, dans le studio de CFM, je vous propose de marquer une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après.
CFM à Castelsarrasin. 90.7.
Une prime d'achat de 200 euros pour l'achat d'un vélo électrique neuf. Ça, c'est une aubaine. Chez A Loisirs, venez découvrir une grande sélection de vélos, des électriques, des vélos de route, des VTT ou VTC. Un grand choix vous est proposé, neuf ou d'occasion, en vente ou en location. Eric et Sylvain vous accueilleront avec plaisir. A Loisirs, le vélo plaisir. Société A Loisirs, 3130 Route du Nord à Montauban. Plus d'infos sur aloisirs.fr.
L'agence commerciale des transports Montalbanais déménage dès le 14 juin. Retrouvez votre nouvelle agence sur l'esplanade des Fontaines à Montauban. La CMTM, réseau de bus urbains des transports Montalbanais, pense à vous pour mieux vous servir et vous accueillir au sein d'une nouvelle agence commerciale fonctionnelle, moderne et accessible. Informations, achats, rechargement de vos abonnements ou location de vélo, tous vos services habituels, esplanade des Fontaines, du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 13h. Fermeture exceptionnelle de votre agence le mardi 13 juin toute la journée.
L'association Moissac Culture Vibration présente le 21e Festival des Voix du 15 au 25 juin. Retrouvez des artistes prestigieux au cœur du patrimoine de Moissac et des 11 communes qui y participent, avec Calypso Rose, Noah, Douline, Lucar Bogast et aussi Barbara Fortuna ou encore New Gospel Family. Une trentaine d'artistes à Moissac, Boudou, Durfort, Lisac, Puy Cornet et La Française. Pensez à réserver vos places pour le 21e Festival des Voix, des Lieux, des Mondes du 15 au 25 juin à Moissac. Infos et réservations sur moissac-culture.fr.
CFM à Moissac 90.7.
CFM à Quiltour spécial législative en ce moment avec Sylvia Pinel, candidate parti radical de gauche.
Oui, Sylvia Pinel, la même question que celle posée à Romain Lopez. Quelles sont, selon vous, les principales attentes des habitants, des citoyens de la deuxième circonscription de Tarn-et-Garonne?
Les habitants de cette circonscription, comme au niveau national, attendent que le futur gouvernement, avec sa majorité, puisse répondre à leurs préoccupations de vie quotidienne. Vie quotidienne, c'est quoi ? C'est d'abord le sujet numéro un, c'est bien sûr l'emploi et la question du développement économique, et en particulier dans notre territoire. Et sur ce point, il est très important de réussir à créer de l'activité, à créer de nouveaux emplois, parce que finalement, c'est cette désespérance-là, c'est finalement la colère qui naît de la précarité sociale qui fait souvent prospérer les populismes et l'extrême droite. Donc il est urgent d'avoir des résultats visibles et concrets en la matière, en matière de développement économique. C'est la raison pour laquelle je soutiens l'idée depuis de nombreuses années qu'il faut accompagner ces entreprises par des baisses de charges pérennes et durables plus simples que le CICE par exemple, réformer l'impôt sur les sociétés, accompagner les salariés, avoir une formation professionnelle qui fonctionne véritablement. Mais dans le même temps, il y a bien sûr le sujet emploi, développement économique qui doit être la priorité des prochains mois du président de la République et du gouvernement et bien sûr de l'Assemblée nationale. Et dans le même temps, il faut agir aussi pour avoir un aménagement du territoire harmonieux qui présente des services publics, de l'éducation, de la sécurité, de l'accès aux soins et à la santé, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne pourra pas faire venir et installer des entreprises dans des territoires où il n'y aurait pas d'école, de crèche, de services publics.
Et le transport.
Et de transport également aussi. Donc c'est finalement une vision globale des choses qu'il faut avoir, et c'est pour ça que je dis souvent que dans un projet de société que l'on propose aux Françaises et aux Français lors des élections présidentielles, il faut que l'ensemble des mesures soient cohérentes les unes avec les autres. Et puis surtout qu'on puisse avoir un cap sérieux du point de vue budgétaire et de nos finances publiques. Parce que j'entends parfois un certain nombre de propositions, mais on nous dit jamais comment elles seront financées, à part par l'aggravation de la dette et qu'on fait reposer sur les générations futures. Donc il faut aussi avoir cette vision globale, cette expérience et cette connaissance à la fois des attentes des Françaises et des Français, mais aussi savoir ce qu'il est possible concrètement de mettre en œuvre, et cela demande un peu de sérieux et un peu moins de démagogie.
Nous sommes un territoire rural, hein, votre territoire aussi. Est-ce que cette notion de ruralité était peu présente dans le programme d'Emmanuel Macron, de La République En Marche? Est-ce que c'est une erreur, selon vous?
Écoutez, moi je constate aujourd'hui moi j'ai été ministre de la ruralité et j'en suis extrêmement fière d'avoir eu ce titre-là dans mon appellation ministérielle. Au départ, j'étais en charge du logement et de l'égalité des territoires. Et puis la ruralité, pourquoi ? Parce que nous avions justement, avec Manuel Valls, lancé un grand chantier sur la ruralité qui a permis de conforter, d'installer de nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles, qui a permis de développer des maisons de services au public pour qu'en proximité, il y ait de telles structures. Nous avons accéléré le déploiement du très haut débit pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Eh bien, c'est sur ces sujets-là.
Avec beaucoup de zones blanches encore.
Oui, mais ça, l'argent obtenu par l'État est désormais disponible. Ça fait 2 ans d'ailleurs qu'il est disponible, puisque Manuel Valls avait signé l'arrêté d'attribution de subventions de près de 24 millions d'euros. La région Occitanie a délibéré du temps de Martin Malvy d'ailleurs pour couvrir le Tarn-et-Garonne en très haut débit. Je rappelle que sur ce dossier, cela est de la compétence départementale. Donc il faudrait peut-être que le conseil départemental accélère sur ce sujet.
Ceci est dit, Justement, vous parlez de la région, hein, il y a un instant. Est-ce que, si vous êtes élu, si vous revenez au Parlement, quand sera-t-il votre mandat de conseillère régionale? Vous êtes vice-présidente, mais vous devrez abandonner votre mandat.
Non, j'amenderai la vice-présidence.
Est-ce que vous resterez malgré tout à la région comme simple conseillère
régionale? Oui, je resterai comme simple conseillère régionale. Je n'aime pas beaucoup le mot simple parce que je rappelle qu'il y a 158
simple.
Élus.
Mais ce n'est pas.
Voilà. Non, mais donc je serai. J'ai bien compris.
C'était par rapport à la vice-présidence.
Voilà, mais l'exécutif, vous le savez, la loi est claire. On ne peut pas être parlementaire et disposer d'un exécutif local. En tant que première vice-présidente, je suis donc membre de l'exécutif, mais je resterai conseillère régionale. J'abandonnerai la première vice-présidence.
C'est par choix,
parce que je considère que lorsque j'ai fait le tour des 132 communes avec mon suppléant Jean-Luc Deprince, qui est lui aussi un élu de la ruralité, nous avons constaté quoi? Que les élus ont besoin, les maires notamment des petites communes rurales qui connaissent de nombreuses difficultés, ont besoin, souvent quand elles parlent à leurs députés, parlent aussi aux conseillers régionaux. Et il y a de nombreux dossiers qui demandent justement un partenariat. Mmh. Et c'est très utile pour un élu national d'avoir un pied dans une institution locale, régionale, pour être aussi le porte-parole de ces territoires ruraux à l'Assemblée nationale et pour aussi faire avancer de nombreux dossiers. Donc je trouve intéressant de pouvoir rester membre d'une assemblée, qu'elle soit en tant que conseiller municipal, conseiller départemental ou conseiller
régional. Vous regrettez cette loi?
La loi est votée. Moi, je suis une républicaine convaincue, donc elle s'applique. Mais je considère que sur cette loi, on aurait pu faire le distinguo entre certains exécutifs certaines actions. Président de région et parlementaire, je comprends que l'on puisse ne pas l'être forcément. Mais on aurait pu peut-être donner davantage de souplesse pour qu'il y ait aussi une assemblée qui représente véritablement les difficultés de ces territoires. Le non-cumul peut avoir un intérêt, mais il est bon quand même d'être très en phase avec les réalités du terrain. En tout cas, moi, mon pragmatisme me servira, j'en suis convaincue, pour porter les dossiers, les préoccupations des Tarn-et-Garonnais à Paris.
À Paris, justement, certaines personnes, peut-être bien informées, font état d'un possible mini ou grand mini, certainement, remaniement après les élections législatives. Est-ce que vous pourriez en être, Madame Pinel?
Écoutez, c'est le président de la République et le Premier ministre qui composent leur.
Je m'attendais à cette réponse.
Qui composent leur gouvernement. Mais
est-ce que vous pourriez.
Leur gouvernement.
Si Emmanuel Macron ou Édouard Philippe vous proposez de rentrer au gouvernement, est-ce que vous accepteriez?
Écoutez, la question ne s'est pas posée et je vous en parlerai si jamais elle se pose.
Non, mais si elle se pose,
jamais elle se pose.
D'accord. Très bien. On a compris. La députation est un mandat national. Vous avez dit que vous.
Non, je vous ai déjà répondu. Regardez, il y a déjà des radicaux dans ce gouvernement.
Oui,
donc ce n'est pas un problème politique ou d'accord entre Emmanuel Macron ou moi. C'est simplement qu'à un moment donné, il y a des règles constitutionnelles dans notre pays et il appartient au président de la République et au Premier ministre de former leur gouvernement. Ça s'est déjà passé comme ça dans le passé. Et lorsqu'il y a une proposition, il y a parfois des discussions. Mais pour l'instant, ce sujet n'est pas d'actualité. Donc s'il venait à l'être, je vous en informerai évidemment.
Alors, beaucoup encore d'observateurs font état de la majorité écrasante qui pourrait se dessiner à l'Assemblée nationale, une majorité La République en marche. Est-ce que si vous êtes élu député, vous serez soumise à cette assemblée Godillo, comme on la nomme trivialement, vous serez prête à voter finalement d'autres lois?
Écoutez,
voter contre, est-ce que vous pourriez?
Écoutez, j'ai été membre.
Est-ce que vous aurez le droit sur la couture du pantalon?
J'ai été dans une majorité. J'ai même été membre du gouvernement. Et lorsque je n'ai pas partagé un certain nombre d'orientations, je l'ai dit, et mon groupe à l'Assemblée nationale a pu ne pas voter un certain nombre de textes. Et lorsque j'étais dans l'opposition, alors que l'opposition pouvait voter contre de manière systématique de 2007 à 2012, il m'est arrivé de voter un certain nombre de lois quand Nicolas Sarkozy, par exemple, était président de la République. Donc, moi, je regarde surtout mes convictions, l'intérêt général, l'intérêt du pays, l'intérêt des habitants de cette deuxième circonscription. Et en tant que présidente de parti, j'ai toujours été une femme libre. Notre parti a toujours eu une expression parfois différente de la majorité quand cela était nécessaire. Regardez sous le quinquennat qui vient de s'écouler sur la suppression des départements par exemple, nous avons mené un combat pour que les départements dans les zones rurales puissent être maintenus. Nous nous sommes opposés à un certain nombre de réformes, notamment concernant la réforme territoriale. Nous avons porté souvent une voix différente.
Elle sera revue cette carte. Est-ce qu'il y aura des réformes?
Moi, je pense que sur les collectivités locales, il y a besoin de stabilité. Il y a besoin d'une pause.
On reviendra pas sur la loi NOTRe,
parce qu'il y a eu aujourd'hui de grandes fusions d'intercommunalités et les élus ont besoin d'harmoniser leur politique, ont besoin de digérer, pardon de l'expression, cette réforme ambitieuse.
La fusion des régions aussi.
Mais la fusion des régions, c'est la même chose, harmonisation des politiques. Donc, il y a besoin désormais de stabilité dans l'évolution institutionnelle et besoin de prévisibilité quant à leur capacité d'investissement des collectivités territoriales. Parce que c'est par l'investissement public aussi que l'on peut créer de la croissance, qu'on crée de l'emploi, de l'activité. Mais c'est aussi comme ça que l'on aménage notre territoire. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que l'investissement des collectivités, des augmentations que j'avais pu obtenir lorsque j'étais au gouvernement, notamment sur les territoires ruraux, la DETR, sur la création du fonds de soutien à l'investissement public local, ce sont des bonnes mesures qui doivent être maintenues.
Est-ce que, au niveau de la santé, Madame Pinel, l'offre est suffisante pour notre département ou est-ce qu'il y a des axes de correction, pardon, à mettre en place?
Écoutez, moi, lorsque j'étais au
gouvernement. Il y a ce vieux serpent de mer de l'hôpital à Bressol que certains veulent, d'autres pas.
Lorsque j'étais
votre sentiment.
Lorsque j'étais au gouvernement, sur les fonds d'aménagement du territoire, j'ai financé un certain nombre de maisons pluriprofessionnelles de santé parce que je considérais qu'aujourd'hui, ces équipements-là sont nécessaires si l'on veut que de nouveaux médecins généralistes viennent s'installer dans nos territoires. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord important d'avoir un accès aux soins en proximité, mais c'est important aussi pour désengorger le service des urgences, que ce soit ici à Montauban ou à Moissac. Donc, il est important d'avoir ce maillage territorial. Ensuite, il est important de préserver nos hôpitaux de proximité. Et en cela, le centre hospitalier intercommunal Castel-Moissac doit être préservé. Et on doit trouver un certain nombre de moyens, de complémentarité entre les deux hôpitaux, mais aussi des complémentarités avec les deux CHU que nous avons en région. On doit aussi développer un certain nombre d'équipements comme la télémédecine dans les maisons pluriprofessionnelles de santé pour justement avoir un maillage qui est absolument important dans nos territoires ruraux. Et puis il y a des mesures qui dépendent du niveau national. C'est comme le soutien aux étudiants en médecine pour qu'ils viennent s'installer dans les territoires déficitaires, c'est les bourses d'engagement.
Il faut les forcer à venir chez nous.
Il y a aujourd'hui des bourses d'engagement que nous avons augmentées lors des assises des ruralités.
Ça suffit pas. Est-ce qu'il faudrait...
Ces bourses-là, quand on regarde comment elles étaient utilisées il y a 5 ans et quand on regarde comment elles sont utilisées aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une progression. Cela est dû à la mobilisation des acteurs locaux et notamment de la région qui soutient les maisons pluriprofessionnelles de santé, qui incite par des bourses l'installation de jeunes médecins. Il y a aussi la question du numerus clausus qu'il faut régionaliser pour qu'il y ait en région un nombre de médecins suffisant, formé, qui ira ensuite exercer dans ce territoire régional. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Ils iront à Montpellier ou à Toulouse. Est-ce qu'ils viendront à Moissac, Montaigu-de-Quercy,
c'est un bon exemple. Mmh. Il y a plusieurs années, ça a été la première maison de santé pluriprofessionnelle qui marche aujourd'hui très très bien. Parce que les jeunes médecins qui s'installent, qui veulent s'installer, ne veulent plus pratiquer la médecine comme il y a 20 ou 30 ans. Donc à nous aussi, quand je disais qu'il fallait évoluer et savoir se développer, c'est aussi le déploiement de la télémédecine. Parce que quand ces équipements existent, eh bien nous voyons bien que de jeunes médecins viennent s'installer. Il n'y a pas là aussi de fatalité, mais il faut que chacun prenne sa part de responsabilité et son travail. Moi, je constate que certains départements, comme l'Ariège ou comme le Lot, ont mené des actions très dynamiques auprès des étudiants en médecine à la faculté de Toulouse, et en les faisant venir dans leur département pour leur faire découvrir à la fois l'offre sociale, culturelle, sportive, mais aussi
les distances. Il faudrait le faire aussi.
Mais je pense qu'il faudrait le faire. Et donc, ça, c'est en proximité qu'il faut le faire.
Et donc
Je vous ai dit que c'était les conseils départementaux
qui
l'avaient
fait.
Ben donc je demande, je souhaite que on puisse le faire aussi en Tarn-et-Garonne.
Vous allez envoyer un courrier à Christian Struc pour lui demander.
On va pas polémiquer. J'en ai déjà parlé en comité de suivi sur les mesures sur la ruralité à sa conseillère départementale en charge de ses politiques, en lui prenant l'exemple de l'Ariège. Je pensais qu'elle m'avait entendu.
Un message reçu peut-être.
On verra bien. J'espère qu'elle m'a entendu.
Allez, il nous reste très peu de temps, Madame Pinel. Je souhaitais avec vous aborder le chapitre de l'agriculture. Vous avez reçu il y a très très peu de temps le ministre, le nouvellement nommé Jacques Mézard à l'agriculture. Est-ce qu'il vous a promis des choses? Je sais que c'est pas, ça se dit pas trop, mais est-ce qu'il vous a promis des choses pour l'agriculture tarn-et-garonnaise?
D'abord, nous avons eu un échange avec tous les représentants des filières présentes dans notre département. Et nous avons pu évoquer tous les dossiers qui préoccupent... les agriculteurs. Je pense au sujet des zones défavorisées qui conditionnent le versement de certaines aides de PAC et qui est absolument indispensable pour l'agriculture tarn-et-garonnaise. Nous avons parlé de la révision, de la renégociation de la politique agricole commune qui est indispensable également. Nous avons évoqué la question des phytos, de la question aussi très importante de la surtransposition des directives européennes. Sur tous ces points-là, le ministre a pris d'ores et déjà un certain nombre de décisions. Les états généraux de l'agriculture et de l'alimentation ont été lancés vendredi dernier par le président de la République et par Jacques Mézard, justement pour associer à la fois
plus au-delà des directives européennes,
pour à la fois organiser la négociation commerciale, qui est un vrai sujet pour rétablir le juste prix pour nos agriculteurs, et puis ensuite prendre la mesure de tous les textes qui avaient été surtransposés. Et le ministre a demandé cela à ses services, et c'est, je crois, un changement, sans faire de mauvais jeu de mots, mais assez radical dans les méthodes employées. Donc, moi, je reconnais là un volontarisme pour soutenir et aider nos agriculteurs qui est tout à fait indispensable. Mais il y a d'autres sujets qui sont importants pour l'agriculture. Quand on parle de la négociation commerciale pour rétablir les prix entre la grande distribution, les industriels de l'agroalimentaire, les agriculteurs, c'est finalement cette philosophie qui va présider les états généraux de l'alimentation, avec, en associant aussi, les consommateurs. Parce que il faut, pour réussir cette transformation, avoir aussi bien conscience que nous tous, nous sommes des consommateurs et qu'il faut que lorsqu'on achète nos légumes ou nos fruits, qu'on ait bien conscience que les marges qui sont données aux agriculteurs sont parfois faibles. Et donc, pour avoir de la qualité et préserver ce savoir-faire qui est tout à fait indispensable, eh bien, il faut aussi qu'on accepte d'en payer le juste prix.
Merci, Sylvia Pinel. Je vous propose, comme à Romain Lopez, de vous adresser directement aux électeurs si vous avez quelques mots à leur dire. Qu'est-ce que vous leur diriez?
Je voudrais leur dire que dimanche prochain, ils vont avoir un choix décisif à faire dans l'intérêt du Tarn-et-Garonne et dans l'intérêt de la France. Et au moment de leur vote, moi je veux qu'ils se rendent compte que nous sommes dans une situation particulière. Le Front National est au second tour et on ne peut pas banaliser ce parti. Ce parti n'est pas un parti comme les autres dans notre pays. Et donc nous devons nous rassembler, nous unir pour que les valeurs qui constituent la force de la France ne se trouvent pas bafouées dimanche prochain. Donc je leur propose de voter pour une candidate véritablement républicaine, qui a de l'expérience, qui connaît les dossiers à la fois nationaux mais aussi locaux, et qui sera un porte-parole efficace au sein de la majorité présidentielle, mais avec une liberté pour faire vivre le pluralisme politique, et qui a déjà démontré son engagement total au Tarn-et-Garonne, à ce département qui m'est extrêmement cher.
Merci, Sylvia Pinel, d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour d'autres rendez-vous politiques la prochaine fois, peut-être demain, qui sait. En tout cas, allez voter le 18 juin. Il en va de la démocratie.